about you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Philippe Thibault, Stéphane Desmond et Célia Dufour. Réalisation Thomas Beau. Autour de moi, pour Lucille Como qui est sur une banquette du Bel Air, le bar de la maison de la radio. Mais autour de cette table, Lily Blum, Muriel Jodet et Antoine Guillot pour parler ensemble du procès contre Mandela et les autres de Nicolas Champeau et Gilles Porte. The House That Jack Built de Lars von Trier. First Man de Damien Chazelle, et puis il y aura un coup de cœur d'Antoine Guillot aux surprises pour des films d'Alain Cavalier. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Grayson Perry, Vanité, Identité, Sexualité, c'est à la Monnaie de Paris. Et nous ouvrons cette dispute avec un film documentaire, le procès contre Mandela et les autres de Nicolas Champeau et Gilles Porte. Gilles Porte sorti en fait, mercredi de la semaine dernière ou ce mercredi, je ne sais plus du tout. Ce mercredi, j'avais un petit doute. Parce que de toute façon, il fallait qu'on parle de ce film. Et comme on avait fait les séries la semaine dernière, je me demandais depuis quand il était sorti. Bref, Madiba aurait 100 ans cette année. Le destin de Nelson Mandela, figure ô combien héroïque du XXe siècle, s'est sans doute forgé au cours du procès de 1963-64 que Mandela et ses co-accusés ont transformé en réquisitoire contre le régime d'apartheid. Grâce aux archives sonores de ce procès, les documentaristes nous permettent de découvrir ou redécouvrir une page essentielle de l'histoire.
This is South Africa. Since 1948, its policies are based on race segregation.
The plain purpose thereof was to bring about in the Republic of South Africa chaos.
Did you ever think slogan on war?
We chose. Sir, how did you choose your men?
To defy the government.
I wish you were in a position of enough. I wish you were in a position to know the situation in the country.
That's a good speech I made.
C'était pas mal, en effet, comme discours, parce que des discours, on va en entendre, notamment des accusés dans ce procès de Rivonia. Beaucoup de choses à dire, me semble-t-il, sur ce documentaire, le procès contre Mandela et les autres. C'est Antoine Guillot qui va commencer à nous en parler. Parce que vous êtes chaud, vous avez fait l'émission BD hier, où vous attendez depuis un mois et demi dans la dispute.
Donc ouais, là, voilà, j'ai accumulé beaucoup de paroles qui vont enfin se déverser. Écoutez, c'est un film que je trouve tout à fait essentiel et en même temps complètement insuffisant. Il y a un aspect très frustrant dans ce film qui vient déjà du fait que, vous l'avez dit, je crois, 256 heures d'archives pour ce procès au long cours qui sont condensées en 1h53 et encore, puisque la moitié de ce documentaire n'utilise pas réellement ce fond. Il y a une force, une puissance dans ces paroles qui sont tout à fait sidérantes, mais de tous les côtés, c'est-à-dire aussi bien effectivement la parole des accusés qui ont transformé ce procès en plaidoyer politique avec un calme, avec une assurance, parce qu'il n'y a pas que Mandela.
C'est un des grands intérêts.
Ils sont 9, hein, je crois, sur le banc des accusés. Ils ont tous une puissance et que le film donne aussi à voir qu'il y avait autour de Mandela et que la nation arc-en-ciel était déjà constitué à ce moment-là, parce qu'autour de lui, il y avait des Blancs, il y avait des Indiens, il y avait des Métis, il y avait tous ces gens qui vont faire l'Afrique du Sud qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est déjà un des points forts de ce film, c'est de donner à voir ça et à entendre cette parole. Alors après, qu'est-ce qu'ils font de cette parole? Ils font ce qu'est une grande tendance du documentaire actuellement, c'est le documentaire d'animation. C'est-à-dire qu'on va mettre des images de dessins animés dessus, plutôt que de nous faire un écran noir, par exemple, qu'on écouterait simplement la parole. Et là, je commence à avoir un peu un problème déjà. C'est-à-dire que l'animation cherche sans arrêt sa place, en fait. Dans ce film, va essayer différents procédés. Il n'y a rien de plus répétitif que des images d'un procès. Ce sont des gens assis sur un banc qui parlent, un procureur qui parle. Alors, il y a la possibilité, quand ils racontent quelque chose qu'ils ont fait, là, on a l'animation illustratrice. On a l'illustration métaphorique, c'est-à-dire le procureur qui tourne autour de sa proie comme un vautour, ou de montrer pour dire voilà comment c'était difficile d'accéder à certaines institutions, à certains droits en Afrique du Sud. On va montrer un tout petit Nelson Mandela devant une porte énorme. Et puis il y a des moments où ça sera simplement de l'abstraction, des boules noires et des boules blanches pour figurer un peu. Et c'est finalement ce que je préfère.
Très clairement.
Quand ça vire à l'abstraction, tout d'un coup, on n'est pas distrait par le commentaire que va faire l'animation et on écoute réellement la force de ses paroles. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a encore un autre dispositif qui consiste à faire écouter aux survivants du procès, donc des gens très âgés. Les cartons, à la fin, préciseront que certains sont morts pendant le tournage ou immédiatement après, à faire écouter ces paroles et à les faire réagir ensuite. Et là, tout d'un coup, on tombe dans des dispositifs qui deviennent télévisuels. Alors, c'est une bonne idée de cinéma, a priori, mais peut-être qu'il aurait fallu simplement faire ça, c'est-à-dire nous faire écouter les paroles de ce procès en montrant les gens d'aujourd'hui réagissant ou pas. Mais ça devient une succession de témoignages à la Talking Heads, c'est-à-dire les têtes parlantes. Et tout d'un coup, on tombe dans un processus télévisuel. Et le film hésite tellement sans arrêt sur sa forme qu'il nous distrait, je trouve, du fond, et que de ce matériau formidable, extraordinaire, il faut aller voir le film pour l'entendre. Eh bien, il n'en exploite pas toutes les potentialités, y compris cinématographiques.
Bon, Antoine Guillot a fait un point très complet dans cette première intervention, qui sera donc la dernière. Non, je plaisante, Antoine. Lily Bloom.
Non, mais moi, je ne suis pas d'accord, parce que, par exemple, les animations, je trouve qu'elles sont toujours au service de la parole. Moi, elles ne m'ont jamais fait obstacle à l'écoute. Le projet est très clair. Il commence sur fond noir, avec les mots grésillants de l'époque. On est en train d'exhumer un trésor. C'est étonnant, c'est un procès, le procès de Rivonia, qui a une répercussion jusqu'à nos jours. Et on a très peu d'éléments auxquels se raccrocher.
Il n'y a pas d'image.
Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image du tout. Et l'aspect dessin ne me choque pas, puisque la plupart des procès sont croqués. Donc ça me paraît tout à fait cohérent et je comprends bien qu'il y a un déficit d'image qu'il faut combler d'une manière ou d'une autre et celle-ci me convient. Mais voilà, donc moi, c'est vraiment les mots qui m'ont marqué. Et quand tu parles justement. Quand vous parlez justement de ces descendants ou même des acteurs de ce procès qui réentendent les mots, moi leur émotion ne m'a pas paru comme quelque chose de superficiel ou de télévisuel. Au contraire, ça permet d'incarner cette parole.
Là, vous déformez tout ce que je dis. Hein. C'est pas du tout ce que j'ai dit.
Eh bien, c'est comme ça la radio. Vous parlez, les gens entendent autre chose. C'est ça le principe. Mais il y a les sources ce soir. Donc ça
moi, ça
bien.
M'a. Par exemple, il y a le fils du procureur.
Vous voulez mettre un casque, Muriel Jodet?
Non.
Ça va aller?
Ça va être pire.
Le fils du procureur, par exemple, moi, m'a bouleversé. Qu'est-ce que ça fait d'entendre son père qui, quelques années à peine après la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il est un juif immigré estonien, se trompe de camp par zèle?
Choisit un camp.
Choisit un camp, mais à l'époque.
Pour faire carrière.
Pour faire carrière. Mais se trompe.
Mais la vraie star du film, d'ailleurs, c'est le chat qui est sans arrêt sur les genoux du fils du procureur, qui occupe beaucoup l'écran.
Et ce que je ne savais pas, et que ça m'a appris, en tout cas, moi, le film, c'est que, voilà, Mandela, la figure de Mandela, c'était une construction collective qu'ils avaient faite autour du personnage de Mandela, parce qu'il était le plus charismatique, qu'il était d'une lignée aristocratique, royale même, qu'il était avocat.
Il était quand même avocat, donc il a l'habitude de parler dans une
cour. Et qu'ils ont décidé ensemble, et moi, ce qui m'a le plus touché dans le film, c'est ce conseil des justes, dans un sens biblique, qui ont un humour dingue, qui sont si élégants. Enfin voilà, ça va être extrêmement troublé. À un moment, ils disent « on a décidé de ne pas faire appel », et l'autre dit « ah bon, pourquoi ? C'est intéressant ». Voilà, c'est une élégance qui s'est perdue. Voilà.
Muriel Jodet, comme vous n'avez rien entendu des deux autres propos, vous pouvez y aller.
J'ai un peu entendu Antoine, et je suis très d'accord avec lui, même totalement d'accord. C'est-à-dire que je suis embarrassée devant un objet pareil, parce que je vois deux choses. Il y a le document. Et moi, je suis d'une ignorance crasse concernant ce chapitre de l'histoire de l'Afrique du Sud, mais vraiment crasse. Donc, j'apprends tout. Voilà, c'est vraiment que des premières impressions. J'apprends absolument tout. Après, je me dis, bon, où est l'objet cinématographique? Pour moi, bon, si j'étais un peu violente, je dirais qu'il n'y a pas d'objet cinématographique, ou alors il y en a un, mais qui est extrêmement maladroit. Et comme le soulignait Antoine, il y a maintenant cette nouvelle mode dans le documentaire, surtout télévisuel. Hein, moi, je rattrape beaucoup de documentaires sur Arte, et c'est devenu vraiment une mode. L'animation pour remplir les trous du documentaire. Et là, je trouve que c'est extrêmement maladroit d'avoir fait ça. C'est-à-dire qu'il y a des archives sonores, on nous dit bien que les images n'existent pas, et bah qu'on assume qu'elles n'existent pas, qu'on mette du noir sur l'écran, qu'on fasse un peu un geste, entre guillemets, radical. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin... j'assimile pas le film d'animation à une infantilisation, mais pour moi, je trouve ça infantilisant dans le film. C'est-à-dire que je peux écouter, lire des sous-titres en regardant un écran noir pendant 20 minutes, ça ne me dérange pas.
Vous êtes une spectatrice professionnelle.
Oui, mais on l'est tous autour de cette table,
oui,
et en France...
Il n'y a pas que des spectateurs professionnels, il y a quand même besoin de support. Enfin, c'est pas du tout condescendant que je dis ça.
Oui, mais ça fait écran, en fait. Je peux juste entendre. Il faut assumer ce choix-là. En dehors de ça... le documentaire est assez laid. Hein. Encore une fois, je discute pas tout ce qu'on apprend et l'importance documentaire et historienne du film. Mais en tant que... Voilà, le film n'existe pas. Il est laid. On voit donc ces vieux monsieur avec leur casque autour du cou pendant 1h40. On sent qu'il n'y a absolument aucun effort qui est fait.
Vous voulez des couchers de soleil sur la savane? Non, mais ça veut dire quoi? Il est laid, ce film. Moi, je le trouve très beau, ces hommes, mais vus avec leur casque autour du cou.
Non, mais encore une fois, ils sont très beaux.
Leur présence à l'image me suffit, en fait. C'est vrai que moi, j'ai eu très peur au début pour l'animation. Pas particulièrement effrayant. On a passé le nom de Hurd, j'imagine qu'on dit Hurd, pour cet Hollandais, Néerlandais, qui a assuré cette dimension de film d'animation. Bon, je trouve que la figure du procureur, ça va pas trop quand même, hein, le côté monstre, Nosferatu, enveloppant, je pense que c'est un parti pris.
Au nécrochu.
Oui.
Ouais, même Mandela, je trouve ça problématique.
Ça.
C'est Banania, je suis désolée, dans le film, je trouve ça terrible. C'est-à-dire que vraiment, la façon dont on dessine les Noirs, j'ai un problème avec ça.
Je pense que c'était un parti pris assumé. Dénonciation de l'apartheid.
Ouais, je comprends pas. Encore une fois, c'est vraiment un problème plus général de l'animation dans le documentaire qui me pose problème.
Alors peut-être que j'en vois pas assez.
Avant, on se passait de ça et on trouvait d'autres solutions. Et là, c'est devenu vraiment une mode généralisée. Parfois, c'est bien utilisé. Hein. Non, mais là, je trouve ça assez terrible.
Non, mais la question du cinéma, elle est vraiment toujours très, très délicate sur le documentaire. Antoine Guillaume a parlé tout à l'heure d'Alain Cavalier. Je ne sais pas ce qu'il va en dire. J'imagine du bien, c'est un coup de cœur. On peut parler de la dimension formelle très pauvre d'Alain Cavalier. Vous allez me dire que ce n'est pas beau. Non, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Ce n'est pas parce qu'on filme simplement des gens simples ou pas simples, ou extraordinaires. En l'occurrence, ceux qui sont filmés dans le procès Mandela contre Mandela et les autres, ils sont tous exceptionnels. Les avocats comme les co-accusés. Mais voilà, moi, ça me suffit. Je les trouve extrêmement émouvants. Je pense qu'il y a une force. Il n'y a pas besoin, pour moi, du tout, de faire quoi que ce soit de plus. Et on n'a pas parlé de cette dernière séquence que je trouve absolument magnifique, de la réunion de ceux qui peuvent encore, à leur âge, se réunir. C'est des retrouvailles. On voit que... ils sont liés à vie, ces gens-là, mais qu'ils ont pas forcément, ils sont pas forcément vus depuis quelques années. Et la fin est assez glaçante, puisque cette soirée de réunion, c'est pour assister à l'investiture de Donald Trump. Et, vous faites la grimace, Antoine Guillot. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il essaie de la mise en scène de la vie? C'est
le
documentaire?
Le film est sur des rails.
Quel est le problème?
C'est ça, le problème.
Non, c'est pas ça. Moi, j'ai un autre problème, c'est que je trouve que le film ne nous en dit pas assez sur ce qui s'est passé après et sur ce qu'est l'Afrique du Sud aujourd'hui. C'est-à-dire que le raccourci de nous dire, regardez, c'est comme le passage de, inversé, maintenant on passe d'Obama à Trump, et alors, est-ce que c'est le retour de la... Enfin, tous les raccourcis possibles, est-ce que ça va être le retour de l'apartheid aux États-Unis, enfin, des choses qui me semblent, à mon avis, politiquement assez légères. Et alors qu'au contraire, si le film avait interrogé, par exemple, la figure de Winnie Mandela, qui est complètement héroïsée dans le film, c'est-à-dire quand elle est dessinée dans les scènes de procès, elle est superbe. On la filme, c'est un des derniers entretiens qu'elle a donné avant de mourir, et le film fait complètement l'impasse sur la figure extrêmement controversée.
Oui, ils vont pas faire 50 ans d'histoire d'Afrique
Mandela
du
dessus.
Sud.
Oui, mais alors pourquoi ils nous mettent Trump et Obama dessus? Pour moi, ça frise presque le contresens par rapport à ce qui a été dit, et de plaquer une réalité dessus. Par contre, je voulais préciser que moi je n'ai rien contre l'animation dans le documentaire, ça a donné des choses formidables, et on va bientôt voir le film de Stefano Savona, Samuni Road, qui a eu le prix du meilleur documentaire à Cannes cette année, et qui utilise pour le coup l'image animée de manière exceptionnel et en produisant une émotion. Mais moi, encore une fois, je n'ai rien contre filmer ces vieux monsieur. Pour moi, le problème, c'est l'absence de choix cinématographique qu'il y a dedans. C'est-à-dire, j'aurais été bouleversé d'entendre les paroles du procès en regardant ces gens-là y réagir avec précisément le casque sur le cou. Mais ça, c'est des petits moments. Et on a juste des amorces avant qu'ils disent et qu'ils nous parlent. Et là encore, excusez-moi, mais tout autant magnifique qu'il soit, très émouvant ce qu'ils disent, l'importance de les montrer, le film ne l'utilise pas bien, les utilise d'une manière que je trouve télévisuelle. Pour moi, ça manque d'une pensée globale de cinéma dedans, parce que c'est un film qu'on va voir en salle, c'est-à-dire ce n'est pas un film qu'on regarde sur un petit écran. Je serais passionné d'avoir simplement le témoignage de ces gens les uns après les autres dans un dispositif cinématographique télévisuel, pardon. Ça serait pas très grave. Et en voyant le film, je me disais, mais qu'est-ce que ça ferait un formidable document radio, par exemple, sans arrêt me demandant quelle est la valeur ajoutée de ce que je vois dans ces images. Et pour moi, elle n'est pas toujours très pertinente. C'est un souci purement formel.
Eddie Blum.
Oui, non. Moi, je pense que, par exemple, la valeur du film, parce que c'est vrai, effectivement, ça ferait un documentaire radio magnifique. Mais par exemple, on n'a pas parlé des images de propagande, de publicité propagandiste qui montrent qu'il y avait tout un carcan idéologique à casser à l'époque. Le personnage,
ça,
justement.
C'est très passionnant, ça.
C'est passionnant à voir. Enfin, je veux dire, c'était il y a si longtemps que ça. Et on voit dans quel. Enfin. Dans quelle folie ils étaient. Et par exemple, le personnage justement indien, quand il part en Angleterre, d'un seul coup, il découvre la liberté. Et c'est tout un apprentissage. Il est presque ému d'avoir le droit.
Voilà. Femme de ménage.
Voilà, qu'une femme puisse être, voilà, une femme blanche puisse être femme de ménage. C'est étonnant.
Alors peut-être qu'à l'inverse de vous, Muriel, moi, c'est un pays que je connais bien et dont je connais bien l'histoire. Et peut-être que c'est ma vision qui a tout fait tous les rajouts et tous les raccords qu'il fallait peut-être. Mais bon, du coup, ça me touche de voir un pan de cette histoire-là montré au plus grand nombre parce que il sort en salle, certes. On espère bien que des chaînes de télévision publiques vont diffuser ce film dans un avenir proche.
Il est fait pour la télé, clairement. C'est-à-dire qu'on sait, en voyant le film, en voyant sa forme, son formatage, qu'il est fait pour la télé. Quand je suis devant, je me dis, j'arrive plus à faire mon métier, si vous voulez. C'est-à-dire que je vois le document historique et je vois pas suffisamment de matière pour faire mon travail de... Je suis désarmée. Voilà, je suis impuissante parce que je félicite le travail documentaire et historique et puis l'objet cinématographique, et pour moi, il est un petit peu manquant. Donc, j'ai pas envie non plus de charger le film. C'est très intéressant d'aller le voir. J'ai appris plein de choses.
Mais je crois leur entreprise est plus humble que ça. Et il y avait surtout une urgence quand enfin on a redécouvert les enregistrements. C'était parce que les derniers survivants étaient avec 90 ans aux alentours et qu'il fallait vite qu'on récupère leurs mots, leurs images. Donc je pense que cette urgence est un petit peu la raison de la laideur entre guillemets et le manque de financement derrière ça, mais que sans cette urgence, peut-être qu'on n'aurait rien eu. Voilà. Et la dimension pédagogique, moi, me suffit.
Non, juste préciser que le film est coproduit par Canal+ et par Arte, donc nous n'avons aucune inquiétude sur sa diffusion à la télévision.
Bon, ben c'est très bien. Mais allez le voir en salle, d'ores et déjà, le procès contre Mandela et les autres de Nicolas Champeau et Gilles Porte à suivre dans la dispute de House that Jack Built de Lars von Trier, First Man de Damien Chazelle et le coeur d'Antoine Guillot pour les films d'Alain Cavalier.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Pour la suite de cette dispute cinéma, toujours en public au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, le vendredi soir, on parle à présent du nouveau film de Lars von Trier, The House That Jack Built, un film que je n'ai pas vu, par choix, je le confesse. Moi, j'ai arrêté de voir les films du Danois depuis Breaking the Waves, que j'ai trouvé tellement dégueulasse. Bon, j'ai fait une exception pour Mélancolia, parce qu'il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup qui m'ont dit qu'il fallait que je voie celui-là. Bon, je l'ai vu. Mais c'est tout. Alors, donc, je peux vous lire ce que j'ai lu, du résumé. L'action de ce nouveau film se situe aux États-Unis. Vous me dites si je dis une erreur, hein. Dans les années 70. Et l'histoire est vécue du point de vue de Jack, tueur en série, qui considère chaque meurtre comme une œuvre d'art en soi.
Your house is a fine little house, Jack.
Are you allowed to speak along the way? I was thinking there might be rules.
Let me put it this way. Very few make it all the way without uttering a word. But do carry on merrily. Just don't believe you're going to tell me something I haven't heard before.
Oops. That was maybe a mistake.
What was maybe a mistake?
me getting in this car with you, you might as well be a serial killer. Sorry, but you do kind of look like one.
Some people claim that the atrocities we commit in our fiction are those inner desires which we cannot commit in our controlled civilization. So they are expressed instead through our art. I don't agree. I believe heaven and hell are one and the same. The soul belongs to heaven and the body to hell.
Bon, j'aurais pu y aller parce que j'aime beaucoup Matt Dillon à cause de Rumblefish. Bon, c'est un amour coupable peut-être pour The Jack Built. Lily Bloom, vous commencez ? Ça vous fait rire ?
Oui, parce que...
Non, parce que c'est un ordre tournant, vous savez, ça tombe sur vous maintenant. Et après, ce sera Muriel. Vous commencez. Alors, Lars von Trier et vous ?
Alors,
faisons le point déjà.
Longue histoire, longue histoire.
Bon, moi, on ne veut pas tout savoir.
Je l'ai défendu ardemment jusqu'à même ces, voilà, ces digressions malheureuses il y a 7 ans qui lui ont valu d'être persona non grata à Cannes. Je comprenais tout à fait que ces mots étaient plutôt de l'ordre de la liberté intellectuelle qu'on s'autorise pour penser différemment, qui sont toujours dans des zones grises, qui flirtent parfois avec des pensées dangereuses, mais... Voilà, ça a été maladroit, empêtré dans la timidité. Je lui avais trouvé toutes les excuses du monde. Et puis là, j'ai été affreusement déçue. La seule vertu que je pourrais dire de ce film, c'est qu'il m'a permis de ressentir quelque chose que je ne connaissais pas. C'est l'anesthésie émotionnelle. Moi qui suis normalement une ultra émotive, je me suis retrouvée devant ce film complètement anesthésiée émotionnellement, au point de pratiquement m'endormir alors que 2 enfants étaient massacrés bêtement à l'écran.
D'accord. Donc, c'est une succession de crimes, c'est ça l'histoire de meurtre plutôt ?
Alors, d'incidents. Déjà dans le terme, incidents. On sent, voilà, ils appellent ça des incidents. Lars von Trier appelle ça des incidents, ce qui est déjà, voilà, qui donne un petit indice de.
D'accord. Voilà. Massacrer 2 enfants en bas âge, c'est un incident.
C'est un incident. Ça, et
je note.
Une scène de chasse.
Alors, il faut quand même dire quelque chose, c'est que toute la pub qui est faite autour du film est complètement fausse.
Alors c'est quoi ? Parce que j'ai pas fait attention.
On parle de gens qui quittent la salle parce qu'ils sont très choqués, on parle de malaise,
on parle pas de vous qui vous endormez.
Non, je pense que les gens sont partis par ennui. Et vraiment, sincèrement, je pense qu'ils sont partis par ennui et parce que le film est une farce macabre, avec un humour noir fatigué, malade, qui moi personnellement ne m'a pas fait rire, à cause vraiment d'un fond idéologique qui est une sorte... Il y a un aspect testamentaire dans le film, puisqu'il s'auto-cite, avec tout ce que ça a de pompeux et d'un petit
l'apanage
peu pathétique.
L'apanage des modestes.
Donc c'est un film qui s'auto-cite comme un testament, sauf que c'est plutôt une sorte de suicide idéologique. C'est comme une réponse aux critiques qu'on lui a faites il y a 7 ans, et une réponse vraiment vindicative d'ado.
Tu dirais quoi alors cette...
Qui enfonce le clou, c'est-à-dire par exemple, mais ça c'est dès les premières minutes, on le sent, c'est-à-dire les victimes finalement méritent leur sort parce que les femmes sont vraiment trop connes, parce que elles sont veules, parce que, enfin voilà, il y a une légitimation comme ça du meurtre et dès le départ, par exemple avec la scène inaugurale avec Uma Thurman. Alors certains y verront la fée bleue dans Pinocchio qui lui permettrait de devenir le serial killer qu'il doit devenir. Moi je vois juste une scène ultra misogyne où il nous place empathiquement du côté du tueur. On est là, vas-y, tue-la. Elle est trop conne, tue-la. Et même le rapport au discours est pénible. Alors ça pourrait être donner une dimension sadienne, comme une sorte de préliminaire ultime où il parle avant. Enfin, tout est dit
avant.
Il parle dès le départ. C'est annoncé. C'est un mécanisme du film. Mais là, ça devient fa quoi. C'est insupportable. Et du coup, Il y a une forme d'animosité envers le spectateur que j'ai ressenti, qui m'a refroidi. J'avais l'impression d'assister à un dîner obligé avec une tante acariâtre qui va déblatérer des horreurs. Et voilà. Et donc moi, je me suis retrouvée hostile et à tout subi.
J'ai fermé les
écoutilles. J'ai tout subi. Et au moment où j'étais vraiment au bord de l'agacement ultime, il ouvre un tiroir, il nous sort Hitler, il fait une apologie premier degré des nazis, de leur méthode et du génie nazi. Et
carrément. Là.
Oui, bah clairement, je veux dire, il fait des références visuelles, des références. Si on n'avait pas bien compris.
Alors Lucille Comeau fait non sur sa banquette. Hein. Je vais maintenant, parce qu'elle ne peut pas parler, je vais dire ses grimaces.
Si on n'avait pas bien compris avec l'assemblage de corps, bah il nous le dit, hein, parce que voilà, puis il nous montre Hitler. Voilà, ça a été très pénible pour moi.
Muriel Jodet pour suivre sur ce film de Lars von Trier, The House That Jack Built.
Oui, non, je comprends tout à fait l'anesthésie que décrit Lily, c'est-à-dire qu'on n'est pas dupe devant le cinéma de Lars von Trier. Moi, c'est un cinéaste que j'estime comme cinéaste. Je pense que c'est un grand cinéaste, mais qui ne m'a jamais intéressé, ou disons que je vois quelqu'un qui se frappe la tête contre le mur, ça saigne, j'ai envie de dire bon, arrête-toi, prends un médoc, calme-toi. C'est un peu ça mon rapport à Lars von Trier. Et donc on est non dupe devant ces provocations, et encore une fois, c'est pas que le film choque, c'est qu'on est fatigué par le fait qu'il veuille nous choquer. C'est plutôt ça le problème du film. Donc on passe par toutes sortes d'états, donc on est vraiment exaspéré, fatigué, épuisé, parfois on rigole. Et malgré tous ces états-là, malgré cette exaspération, malgré cette non-duperie, il y a quelque chose qui reste. Moi, ça fait, j'ai vu le film à Paris pendant Cannes, il passait, avec tous les fans de Lars von Trier dans la salle. Et ils sont nombreux. Et encore une fois, c'est important pour moi de dire que je ne suis pas du tout une fan de Lars von Trier et que pour moi, ce film est un chef-d'œuvre.
Ça y est, on en arrive là.
Le point Godwin, chef-d'œuvre. Et non, c'est important pour moi parce que. Et que malgré toute la perplexité que j'ai pour le film, je trouve que c'est un geste, mais d'une efficacité, c'est quelque chose d'inédit. J'ai jamais vu ça de ma vie parce que c'est un tunnel de négativité. Donc oui, il parle de la Shoah. Oui, le mec va puiser dans sa folie, dans sa dépression. Et je vais même utiliser le terme de connerie parce qu'il puise dans sa connerie. C'est vraiment le terme. C'est quelqu'un qui sait qu'il est con. Et ce dont on n'a pas abordé, c'est qu'en face de ce personnage psychopathe, on a Verge, joué par Bruno Ganz, qui arrête pas de dire mais là tu vas un peu trop loin.
Bruno Ganz qui jouait Hitler dans un film.
Qui joue, non mais en plus dans l'interview, dans les cahiers du cinéma, il le dit qu'il l'a plus ou moins utilisé comme ça. Et donc on a ce personnage Verge, donc qui est Virgile, qui accompagne ce psychopathe en enfer et qui lui dit non mais là tu exagères. Donc Lars von Trier lui-même n'est pas dupe de ses provocations. Il sait très bien qu'il est bête, qu'il est dépressif, qu'il est fou, qu'il est psychopathe, qu'il est comme son personnage. Et donc, à partir de là, moi, pour moi, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de la catharsis. C'est-à-dire. Ouais,
quand vous dites ça, pardon, j'interromps un instant, mais quand vous dites ça, ça veut dire qu'en fait, moi, j'entends qu'il se borde de tous les côtés, que c'est plutôt malin qu'autre chose, non?
Parce... Oui, c'est malin, mais disons que ce personnage, qui est à la fois une sorte de psychanalyste en face de lui, permet à Lars von Trier d'aller au bout du processus. C'est-à-dire qu'il peut aller de plus en plus loin. Voilà.
C'est ce que j'entends, mais
c'est ce qu'il fait depuis Antichrist. Mais là, c'est un procédé très très malin qui lui permet d'aller extrêmement loin, de dire au spectateur, je sais que je suis fou, la preuve, j'ai un personnage qui est en train de me raisonner.
Mais si malin que ça. Je vais demander à Antoine Guillot, et je reviendrai vers vous, Muriel.
Oui, mais je pense que ces deux réactions très opposées par rapport au film de Lars von Trier doivent le réjouir absolument, parce que je pense que c'est exactement ce qu'il cherche. C'est ce qui lui permet de toucher un public assez vaste, entre ceux qui n'aiment pas son cinéma.
Il fait beaucoup d'entrées.
Et qui sont... j'ai pas regardé... je sais pas si c'est efficace après, mais en tout cas, c'est manifestement son ambition. C'est-à-dire de parler à la fois ceux qui n'aiment pas son cinéma et ceux qui vont tout d'un coup trouver ça génial. Puisqu'effectivement, le film prend la forme d'un dialogue philosophico-esthético, n'importe quoi, entre ces deux personnages, et on peut, selon la sensibilité qu'on a, se mettre d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire soit adhérer complètement au discours du tueur, et sont un peu les vieilles lunes, l'assassinat considéré comme un des beaux-arts, etc. Enfin,
je préfère regarder la corde. Hein.
Il n'invente pas grand-chose, ou le côté un peu le surmoi qui dit non mais quand même c'est pas possible. Et
ça évolue cette pensée du tueur dans le film ou pas?
Alors.
Poser des questions, je divulgage.
D'abord, parce que vous avez dit tout à l'heure, Arnaud, que vous aimez beaucoup Matt Dillon. Alors, ne serait-ce que pour ça, je vous encouragerais à venir voir le film, parce que Matt Dillon est exceptionnel dedans. C'est-à-dire qu'il
m'étonne pas de lui.
Il est tout à fait
sous-employé,
tout à fait formidable, avec un côté burlesque, y compris dans le personnage et dans sa faiblesse. Après, moi, j'admire assez chez Lars von Trier ce côté, allez tous vous faire foutre. Voilà ce que je suis, voilà ce que je fais. C'est-à-dire que ce qu'il avait, c'est pas du tout une maladresse, ce qu'il avait testé dans sa conférence de presse sur son animation. admiration pour l'œuvre d'Albert Speer, puisqu'on le retrouve texto,
l'architecte d'Hitler.
Texto dans le film. Ouais. À un moment, il va vanter la beauté des stukas et de l'architecture d'Albert Speer. Il va parler effectivement des dictateurs comme, comme ils appellent, des artistes extravagants, poussant ça jusqu'au bout. Avec cette, et là encore, c'est quand même pas.
Peut-être faire un film aux Philippines.
C'est quand même pas une nouveauté. Un artiste doit-il être cynique? Est-ce qu'il doit se préoccuper des hommes ou pas? Et puisqu'on a entendu dans la bande-annonce, est-ce qu'on fait de la fiction, est-ce qu'on fait de l'œuvre d'art pour représenter toutes les horreurs qu'on n'oserait pas faire en vrai? Mais en même temps, ça a toujours été le cinéma de Lars von Trier. D'ailleurs, le film ressemble beaucoup à son précédent, qui était quand même très raté, qui était Nymphomaniac, où on avait le même dialogue entre deux personnages, la même utilisation de citations trouvées sur Internet et de films trouvés sur YouTube. Sauf que là, lui-même, et grand malin qu'il est, il en a conscience de ce côté un peu pompeux et ridicule qu'il avait dans son film précédent. Donc les citations, il y a Glenn Gould qui revient sans arrêt pour montrer la démesure de l'artiste complètement dans son œuvre, mais ça devient presque un running gag. Et alors, c'est là que c'est très complexe. Où on peut
à quel degré on le prend en fait?
On peut le prendre à tous les degrés.
C'est
ça qui est extrêmement roublard, mais qui en même temps est une manière de dire, et je trouvais son retour à Cannes avec ce film où il a reçu une ovation, en fait, Lars von Trier, qu'est-ce qu'on
l'aime. En
début de film, oui, mais
l'ovation.
Précisément, oui, ouais. Qu'après l'ovation, ils se disent, vous m'avez viré à cause de ça, ben voilà ce que je fais, et voilà, vous m'aimez ou pas, avec toujours ce truc qui est très ambivalent chez lui, c'est qu'à la fois il veut qu'on le déteste, et qu'on l'aime, qu'on lui donne la fessée et qu'on le cajole, et c'est finalement, ben, à cette table, c'est ce qu'on fait.
C'est ce que veut faire Muriel Jodet.
Oui, le frapper et le cajoler.
Non, mais c'est ce que fait Lily Blum aussi, qui le frappe en trouvant ça dégoûtant.
En l'adorant, marcher sur partout.
Après, si on veut revoir des films de serial killer réellement dérangeants, c'est-à-dire parce que là, c'est un peu éculé, le côté que j'écrase la tête de la fille, que je tue les enfants, que je coupe les seins pour en faire des porte-monnaies.
Enfin, ouais, moi, ça, je m'en passe, en
tout
fait.
Tout ça est très rigolo, mais allez plutôt revoir Henry, Portrait of a Serial Killer, ou Schizophrénia. Voilà. Là, tout d'un coup, on a quelque chose de radical et à fond dans l'idée.
Muriel Jodet.
Mais je crois que Lily parlait tout à l'heure du fait qu'il provoque le spectateur, qu'il y a quelque chose d'une adresse comme ça. Et c'est vrai que Lars von Trier, moi je parlerais de dépendance à son spectateur.
Il a toujours fait ça.
Il est totalement dépendant, il est dans une demande d'amour immense et il a ses fans. Mais moi ce que j'aime dans le film, parce qu'il y a toute une traversée aux enfers qui clôture le film, que je trouve d'un kitsch absolument sublime. Et le film, c'est un travail du négatif. C'est-à-dire que c'est parfois débile, ridicule, kitsch, puéril, convulsif, enfin, c'est n'importe quoi. C'est vraiment le travail du négatif, mais au bout de ça, on sent un cinéaste qui très simplement sublime. C'est-à-dire que peut-être que Lars von Trier, s'il faisait pas des films, il serait en train de tuer des gens dans son pays. Et on sent qu'il y a un processus de sublimation, mais extrêmement frontal.
Il y en a d'autres qui s'en chargent dans son pays, hein, Marc.
Oui, bah surtout, voilà.
Il faut les oser, ces images extrêmement qu'on pourrait trouver très pompières et très kitsch à la fin. Et là, tout d'un coup, le premier degré de Lars von Trier s'arrête. C'est que tout d'un coup, il se dit, je vais aller. C'est un peu comme la fin de Mélancolia. C'est-à-dire que tout d'un coup, il dit, allons-y avec l'image énorme, mais parce que, en fait, je pense que le fondement même de son esthétique est là, et étant réellement au premier degré là-dedans, tout d'un coup, il touche quelque chose. C'est vrai que cette fin est assez stupéfiante pour ça.
Lily Blum, vous dormiez à la fin?
Non.
Ou
non, non, parce qu'il vous réveille toutes les 15 minutes avec Bowie. Avec Bowie au cas où. Voilà,
et Glenn Gould.
Vraiment, voilà, donc c'est vraiment au cas où il veille à ce que vous vous réveillez juste avant qu'il y ait un meurtre atroce. Mais non, moi, c'est par exemple. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve vraiment que l'auteur et le personnage se confondent totalement, et je trouve que Verge n'apporte pas de contrepoint qui dirait attention, je sais que je délire. Je trouve qu'il dérive totalement comme le personnage, il se perd. Donc, je lui trouve pas de contrepoint acceptable. Et je suis plutôt dérangée mollement. Moi, ce qui m'interroge, par exemple, c'est techniquement, lui qui est un si grand technicien, c'est quand même quelqu'un qui dort avec un manuel de Super 8 pour amateur. Enfin, je veux dire, lui qui aime tellement la technique, qu'il a trituré dans Les Idiots, qu'il a trituré avec le dictateur, etc. D'un seul coup, il nous sert un film qui est malhabile, quoi, techniquement, qui a des longueurs, qui des jump cuts malheureux, des caméras à l'épaule. Enfin voilà, il est très agaçant, son montage est même agaçant. Et je me dis, ça peut pas ne pas être maîtrisé, fait exprès. Mmh. Et vraiment, j'ai ressenti cette hostilité tout le long, quoi. Ça ne m'a
même
pas
formellement,
quitté.
Ça vous a
même formellement, quoi.
Agacé,
idéologiquement,
ennuyé,
formellement.
Antoine Guillot,
c'est donc
pareil.
Il a parfaitement maîtrisé ses outils, ouais. Puisqu'il a réussi à provoquer ça chez vous. Donc,
oui.
Formellement, c'est très maîtrisé.
Ouais. Et la question de la misogynie, quand même, j'y reviens parce que Lily Blum en a parlé, Muriel Jodet.
Et moi, ça, c'est le personnage qui est misogyne. C'est toujours ça qui me protège en fait de tout. C'est que c'est pas Lars von Trier, c'est le personnage. Donc à partir de là, on est dans un film et je peux pas taxer la raison de rire de misogyne. C'est, voilà, c'est moi, c'est ma seule réponse pour tous les films. C'est ça. Et encore une fois, il creuse le négatif. Donc c'est meurtre d'enfants, Shoah, misogynie. Enfin, ça va dans tous les sens. Il va au bout. Donc moi, je suis pas du tout choquée. Je pense pas que le film choque par ailleurs.
Antoine Guillaume.
Oui, c'est un peu le catalogue de tout ce qui peut déranger actuellement. Voilà, donc ça. S'il avait fait ça il y a 20 ans, il aurait utilisé d'autres motifs, hein, je pense.
Bon. Denis Blum, vous voulez ajouter quelque chose ?
Je pense juste qu'il faut être psychopathe, un petit peu psychopathe pour aimer le film.
Voilà. J'ai jamais dit que j'étais pas.
Vous êtes bien entouré entre Antoine Guillaume et Muriel Jodet.
On assume tout.
Lucille Cobol, c'est caché derrière vous, Antoine. C'est pouce en l'air, pouce en bas. Vous avez plutôt aimé ou pas, Lucille ? Elle veut pas révéler si elle est psychopathe ou pas. Moi j'ai ma petite idée sur cette question-là. Elle ne l'est pas. Donc, The House That Jack Built de Lars von Trier est sorti ce mercredi sur les écrans. Ben, on sera curieux quand même de voir aussi s'il rencontre un public de psychopathes ou pas.
Tu me chasses, toi, hein ?
Et alors, les déménageurs, ils arrachaient le papier en passant les armoires. Et ça m'arrachait le cœur en même temps.
C'est le moment du coup de cœur d'Antoine Guillaume pour 6 portraits XL d'Alain Cavalier.
Et c'est Jacotte qu'on vient d'entendre, une des 6 personnes portraiturées dans ce film. On sait que Cavalier, ça fait 25 ans qu'il tient un journal filmé. Et il avait déjà fait des séries de portraits, mais où il avait vraiment voulu faire un portrait. Là, ces portraits émergent de ces 25 ans de tournage avec des personnes. Donc, il a filmé sur la durée. C'est déjà une des premières beautés, moi, que je trouve très, très émouvante de ces films, c'est qu'il filme le temps qui passe. Alors, on a cette personne qu'on vient d'entendre, Jacotte, qui chaque année, sur le chemin des vacances, va visiter la maison où elle a grandi, la maison de ses parents. Ses parents sont morts, la maison est fermée et elle vient chaque année retrouver les émotions de son enfance, le lit dans lequel elle est née, les papiers qui prennent de plus en plus de poussière, le papier peint qui se décolle. Et en fait, Cavalier fait ça avec ses films. C'est pas tant un portrait de personne, même si c'est le cas, hein, six personnes, mais de tout à fait quotidiennes. Il y a une personne qui s'appelle Philippe qui est connue. Pour ceux qui découvriront le film, je ne le dis pas à l'avance, parce que c'est aussi comme ça qu'il faut, puisqu'on connaît les films par leur prénom. Mais il va filmer simplement de la quotidienneté avec ce regard qu'il a très touchant sur des gestes. Il avait filmé beaucoup dans ses portraits précédents des femmes au travail, et là il le fait aussi. Il y a un portrait de cordonnier, il y a un portrait de boulanger. C'est les gestes simplement du métier, mais c'est aussi les gestes qu'on répète quotidiennement, une façon de tenir une main, une façon de se déplacer, comme si Cavalier, et c'est évident chez lui dans la manière de tenir son journal, voulait figer quelque chose du temps qui s'enfuit, de la mort qui avance. Et on a tout un catalogue comme ça. Ça serait formidable pour quelqu'un qui découvrira ce film dans 100 ans ou 200 ans. On se dira, voilà comment on se comportait à la fin du 20e siècle et au début du 21e siècle. Et puis, il y a la présence de Cavalier qui, moi, je trouve toujours tellement belle parce qu'elle est tellement juste. C'est-à-dire qu'il ne se cache pas. C'est comme ces peintures où, vous savez, on voit dans le reflet quelque part le peintre. Ben, lui, il est toujours là parce qu'il a un rapport intime avec toutes les personnes. D'abord, il ne filme que des gens qu'il aime, des gens qu'il a rencontrés ici, là, avec qui il a des rapports plus ou moins proches. Ça peut être son cordonnier, comme une vieille amie, comme des gens qu'il connaît depuis très longtemps. Il y a un comédien qu'il avait fait tourner dans ses films précédents, comme Le Plein de Super, par exemple. Mais ce regard, il est à la fois attendri, gentiment moqueur, comme on peut se moquer gentiment de quelqu'un qui a des manies, qui a des trucs comme ça. Et il y a cette voix, parce qu'il est toujours derrière sa caméra et le dialogue. Et la voix de Cavalier est un plaisir sonore inouï, parce qu'il a, voilà, il a une belle voix, il a une voix intelligente aussi. Je ne sais pas si ça peut se
dire. On est accro à sa voix, je ne sais pas si elle est belle ou intelligente.
On est pris dedans. Donc c'est des moments de grand bonheur, d'une grande simplicité apparente, mais qui en fait, parce qu'il y a un travail de montage là-dessus, quand vous avez 10 ans qui tiennent dans un portrait qui dure généralement une cinquantaine de minutes, il faut l'intelligence du montage pour réussir à nous faire passer d'un plan à l'autre sans nous le dire, que tout d'un coup, cinq ans sont passés, et puis nous, on a vu, voilà, et la transformation. Et, alors, c'est des grands, immenses moments d'émotion. Alors, dépêchez-vous d'aller les voir, parce que à Paris, par exemple, ils sont dans une seule salle. Je ne sais pas à quel point le film est bien distribué dans le reste de la France, et surtout, ils sortent deux morceaux par deux morceaux. Donc, il faut. Donnez-vous des rendez-vous avec Cavalier, allez le voir toutes les semaines. Et puis, pour en savoir un peu plus, je signale aussi la sortie dans l'excellente revue Images Documentaires. C'est tout neuf, ça vient de sortir, je l'ai reçu ce matin. Alain Cavalier, portrait, autoportrait, plusieurs textes qui se penchent sur son œuvre, avec notamment évidemment Charlotte Garçon, qui est la grande cavaliérophile avec moi et nous tous dans cette émission. 24 portraits par seconde, donc sur son art des portraits. Et puis Natacha Thierry, qui s'intéresse à l'autoportrait, c'est-à-dire Cavalier au miroir. Natacha Thierry, qui est en train de préparer un livre sur Cavalier. Donc on est absolument impatient de découvrir ça. Voilà, en tout cas, c'est pas tous les jours qu'on a de la chance de voir du Cavalier sur grand écran. Donc,
non, il faut en profiter en attendant quand même qu'une édition DVD suive pour que le plus grand nombre puisse avoir accès à ces portraits XL d'Alain Cavalier, dont la sortie a commencé mercredi dernier.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Dernière séquence de cette dispute cinéma en public au Bel Air, comme tous les vendredis, on vous attend dans ce bar de la maison de la radio, avec le retour du duo gagnant ou pénible, c'est selon, de La La Land, Damien Chazelle et Ryan Gosling. Il s'agit cette fois avec First Man d'un biopic sur Neil Armstrong, premier homme à avoir marché sur la Lune. On va le suivre du début des années 60 jusqu'à la conquête de la Lune.
Tu es sûr?
Yeah. Oui. C'est une belle aventure.
First man to walk on the moon.
Le premier homme sur la Lune.
That'd be something.
T'imagines un peu?
La mission qu'on a choisie est si difficile. Elle exige un tel niveau d'avancée technologique qu'on va être obligé de repartir à zéro.
Vous pouvez y aller.
Ce n'est que lorsqu'on maîtrisera ces tâches qu'on envisagera d'atterrir sur la Lune.
Neil, si ce vol est un succès, vous entrerez dans l'histoire. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Nous ne prévoyons rien d'autre qu'un succès sur ce vol.
Damn, that is a big mother.
It'll go up like a half kiloton A-bomb if it blows.
The vehicle's not safe.
We need to fail down here so we don't fail up there.
This isn't just another trip, Neil. You're not just going to work.
Do you think you're coming back?
Il y a des risques, mais on a bien l'intention de revenir.
Est-ce que quelqu'un a un couteau suisse?
Un couteau suisse? C'est une blague?
Here we go.
6, 5, 4, 3, 2...
Vous ne maîtrisez rien du tout.
Bon, ben avec ce montage, mixage, signé Thomas Beau de la bande-annonce en VO et VF, on peut se dire que finalement, ça peut être pire encore que de le voir en VO, c'est de le voir en VF, pardon aux comédiens qui sont sans doute très mal dirigés dans les studios de doublage, mais c'est quand même épouvantable. On se disait qu'on dirait Toy Story, mais on préfère beaucoup de beaucoup Toy Story. Mais on va pas parler de Toy Story,
Non, pardon.
Ah ben allez-y, c'est à vous.
Moi, j'adore Toy Story, mais j'aime énormément First Man aussi, et ça
c'est
m'étonne
vrai.
De moi-même.
Ah, on va pouvoir s'amuser.
Parce que pareil, Damien Chazelle, pour moi, c'est un cas très compliqué. Enfin, pour moi, c'est un peu le Macron du cinéma américain, hein, c'est-à-dire très jeune, hein, il a 33 ans. Et qui fait un cinéma.
C'est Ryan Gosling, le Macron du cinéma.
Bah,
il lui ressemble énormément.
C'est Brigitte et Emmanuel, voilà. C'est un peu le couple. Non, mais il est jeune, il fait un cinéma qui fait l'éloge de l'effort, du travail, pas du talent, mais vraiment, on réussit parce qu'on est, parce qu'on travaille.
Voir l'épouvantable Whiplash.
Voilà, Whiplash que j'aime beaucoup, mais
horrible,
qui est un film fasciste.
Film.
Enfin, voilà, c'est un film
horrible.
Et La La Land, c'était, voilà, ils ont pas de talent, l'autre il sait pas jouer, l'autre il sait pas danser, enfin je sais pas quoi, mais on réussit quand même parce qu'on a travaillé. Donc je me suis dit, First Man, ça va être pareil.
C'est plutôt
ça va
sarkozyste, être... ça, non?
Bah, tous, hein, bon. Franchement. Bref. Donc First Man, je le vois y arriver, je me suis dit bon, ça va être encore l'éloge de cet effort-là, le patriotisme américain, un film musclé avec un Neil Armstrong transpirant, et pas du tout. Mais j'ai vraiment été sidérée.
Il transpire pas de Ryan Gosling, enfin.
Écoutez, de toute façon, il ne sait pas jouer. C'est comme Ben Affleck dans Gone Girl. On lui dit ne joue pas et c'est parfait, en fait. C'est idéal pour le film. Ouais. Il est derrière son casque.
Je pense qu'il joue, lui.
Non, mais c'est un zombie dans le film, donc c'est très bien. Ça colle parfaitement avec l'acteur. Bref, donc je reviens
à. Il n'y a pas de souci, moi aussi.
Et Damien Chazelle dit quelque chose de très bon en interview. Il dit de toute façon, la Lune, c'est morbide. C'est une planète morte, donc c'est morbide. Et ça ouvre une voie au film que je trouve très belle. Parce qu'en fait, il explique l'héroïsme d'Armstrong en disant cet homme a pu faire ce qu'il a fait soit parce qu'il n'avait pas peur de la mort, soit parce qu'il voulait mourir, ce qui est la même chose. C'est le suicide raté le plus cher de l'histoire de l'histoire de l'Amérique. Et cette piste-là, je trouve qu'elle est amenée avec une subtilité assez inouïe. C'est-à-dire que...
Ah, c'est tellement subtil que je ne l'ai pas vu comme ça.
Si, c'est quelqu'un qui veut se tuer quand même.
Bah non.
Enfin, pardon de projeter ça sur tous les films, mais il veut vraiment...
Mais c'est votre névrose
dont on parle. C'est-à-dire qu'il explique en gros Neil Armstrong par un fait traumatique qui est qu'il a perdu une enfant en bas âge atteinte d'une tumeur au cerveau. Le film s'ouvre par ça. Et puis on voit que ce trauma revient. Ouais. Mais au lieu de psychologiser le personnage, il va s'en tenir à une sorte de behaviorisme très, très asséché, très concret. Il en parle lui-même en interview. Il dit « Moi, ce qui m'a inspiré, ce n'est pas les films de l'espace, c'est le cinéma documentaire ethnographique, les gestes, le concret, les tableaux de bord, les boulons, tout ça. » Et on voit que c'est un zombie qui met sa combinaison, qui se prépare. Mais il n'y a pas du tout de surpsychologisation. On n'est pas du tout dans un truc à l'acteur studio. Et ce quelque chose de concret, après je vais m'arrêter là, bascule pour moi, dans quelque chose d'extrêmement abstrait. C'est-à-dire toutes ces scènes dans l'espace que je trouve sidérantes, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment magnifiques. Et on bascule en fait dans un espace mental. Et pour moi, il n'y a qu'une seule façon de filmer l'espace, de filmer la Lune, c'est comme un espace mental. Et là, on rejoint peut-être un film comme Mélancolia, sauf que la planète arrivait vers les deux dépressives neurasthéniques. Et là, c'est quelqu'un qui va sur la Lune, parce que de toute façon, il est dans la Lune depuis toujours. Et moi, voilà, c'est ça qui m'a plu, c'est ce zombie toujours dans la Lune, et qui, en fait, veut se tuer. Enfin, moi, vraiment, c'est clair, c'est lisible dans le film. C'est lisible, mais pas asséné.
Bah, franchement, si je n'avais pas vu le film, vous me donneriez envie de le voir.
Bah, c'est le but.
Je vous en voudrais après, mais ça, c'est un autre problème. Antoine Guillot, sur First Man.
Alors, je suis assez d'accord avec la lecture que vous en faites, Muriel Joudé. Je suis assez peu d'accord avec l'adjectif subtil.
Mais peut-être que c'était, oui.
Parce que, justement, selon... c'est aussi un travail de deuil. C'est aussi le plus cher travail de deuil qui ait jamais été fait. Mais alors ça, c'est quand même pas d'une grande subtilité. C'est-à-dire qu'au cas où on l'aurait oublié qu'il est hanté par la figure de sa fille, elle va revenir régulièrement sous forme de flashback.
Non, moi, je trouve ça obscène.
Dès le début, on sait ce qu'il va faire du petit bracelet qu'il a mis dans son tiroir. Enfin, tout ça n'est pas très subtil. Mais bon, voilà, c'est ce qu'il a voulu faire, effectivement, de raconter. Alors, et faire un travail qui est de faire le film de l'espace anti-héroïque, mais il n'y arrive pas complètement. C'est-à-dire que malgré tout, on met tout ça en scène pour arriver à un objectif. Alors moi, je suis assez intéressé, effectivement, qu'il ait fait ce travail qui vire vers l'abstrait. Et c'est les rares moments où j'ai pu un peu sauver le film, parce que ce montage de plans hyper courts sur des scènes qui généralement se traînent en longueur, il y a un montage qui est épouvantablement épuisant, mais ça serait simplement dans les moments dans l'espace où ça se coud dans tous les sens, alors effectivement où on va casser l'image façon puzzle parce qu'on est secoué comme le personnage dans tous les sens, ok, le problème c'est que c'est tout le temps, c'est-à-dire que dans les scènes de la vie quotidienne c'est filmé de la même manière, on a l'impression que l'opérateur a été embarqué dans les modules d'essai au début et qu'il a eu la tremblote sans arrêt dedans qui ne s'est jamais stabilisée, donc c'est toujours la caméra à l'épaule, c'est filmé tout le temps en gros plan. Alors quand c'est des gros plans sur des boulons, on voit patiner avec un soin, c'est-à-dire qu'on se dit effectivement à l'époque,
chef déco, il s'est régalé.
À l'époque, tout ça c'est fait avec des bouts de ficelle, mais on peut pas croire que ce soit à ce point avec des matériaux de récupération, c'est-à-dire que la moindre manette a l'air patinée par les ans, a l'air d'avoir été récupérée sur un bombardier de la Seconde Guerre mondiale. Enfin là, ça en fait quand même un peu trop. Le côté, je mets de la poussière partout, et je pense bien au fait que le voyage étant très long, ils ont une barbe de 3 jours quand ils arrivent sur la Lune. lune, etc. Le souci du réalisme absolu devient un peu pénible à force parce que c'est tellement énorme. Là encore, c'est pas très subtil comme parti pris. Mais effectivement, quand on arrive sur des moments où tout d'un coup c'est le noir total, où on ne comprend même plus ce qu'est l'image, ça devient assez fascinant. Mais c'est des petits moments parce que le reste du temps, on est quand même extrêmement agacé par ce qu'on voit. Et puis par ce côté qu'a Chazelle, non seulement de faire l'éloge de l'apprentissage à la dure, mais de piller continuellement ses prédécesseurs. Quand il faisait La Land, on sent qu'il avait très laborieusement revu 100 ans de comédie musicale avant. Et alors là, sur ce film qui se veut très concret, très réaliste, il peut pas s'empêcher de se faire son plan à la Kubrick en mettant une valse dans l'espace sur deux modules qui doivent se rapprocher. Il veut pas faire les héros, mais il peut pas s'empêcher de faire des plans à la Philip Kaufman dans l'étoffe des héros sur les équipes qui vont vers leur vaisseau. Et puis, quand il va filmer la vie quotidienne, il va faire du Terrence Malick, le pire du Terrence Malick, c'est-à-dire celui de tous ses films, sauf Badlands. Quoi.
Alors, Lily Bloom, à présent, sur First Man de Damien Chazelle.
Pour moi, déjà, je déteste tout le monde parce que vous avez dit du mal de Ryan Gosling. Mais bon, passons cet incident. Non,
pas du mal.
Non.
C'est Brigitte Macron, ça va.
Non, moi je trouve qu'on reproche. Alors moi la première d'ailleurs, il est facile de reprocher à Damien Chazelle son côté premier de la classe, virtuose.
Je trouve pas virtuose du tout, pardon. Hein. Excusez-moi. Hein.
Ah bah si, mais tout de même dans la façon pénible, qu'il a. Je trouve pas pompier. Je trouve qu'il déplace les enjeux, effectivement, de la conquête spatiale sans en faire perdre l'émerveillement enfantin que les astronautes pouvaient avoir. Et moi, il me fait voir une dimension que je n'avais effectivement pas vue, qui est l'aspect pratiquement kamikazes, comme des kamikazes pour une religion qui serait la conquête spatiale. Claire Denis, quand elle parle de High Life, elle dit que dans l'espace, ce qui la dérange, c'est la dimension de conquête. Et lui, c'est la même chose. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a des inventions de cinéma qui sont intéressantes. Ça lui a même valu d'être qualifié d'antipatriotique. Lorsqu'il montre le pas sur la Lune, au lieu de montrer un plantage de drapeau, moi, je trouve que c'est une très belle idée de cinéma. Et il y a
beaucoup. C'est quand même ça qui compte, non, le pas.
Mais il n'y a pas le drapeau, c'est ça qui est.
Non,
qui
c'est pas ça.
C'est pas grave.
C'est de toucher la Lune. C'est
ça a provoqué.
Il
n'est
pas canadien, Chazelle ?
Bah, il aurait pu planter le drapeau canadien, mais là, ça aurait été bien.
Non, je sais pas.
Non, il est franco-américain.
Non, et moi, ce qui m'a intéressé, c'est le rapport, justement, bancal de ces hommes à la machine. Bon, on connaissait tous la fameuse anecdote avec le tournevis qui leur a permis de partir, etc. Mais je n'avais pas pris conscience, par exemple, du côté complètement artisanal, pourri, où on se dit, ils vont jamais y arriver. Enfin, il y a quelque chose de vraiment suicidaire, effectivement, qui, moi, m'a intéressé. Et de voir des gens qui doutent, des héros qui doutent totalement au fur et à mesure et qui sont pris, même le fait de partir en mission est lié soit à la mort de ton prédécesseur, soit au fait que les Russes ont réussi l'objectif avant. Enfin, il y a quelque chose de, voilà, dans suspens, pas du tout déterminé, volontaire, et qui, moi, m'a intéressé.
Ah oui, bah, encore une fois, bah, vraiment, je trouve qu'il confirme son statut de cinéaste-pompier qui veut se faire passer pour un auteur. Mais enfin, l'absence de finesse est quand même difficilement masquable devant des films pareils. Et je trouve hallucinant d'arriver à faire un film où je me suis autant ennuyé sur une histoire aussi extraordinaire. Parce que l'histoire, oui, elle est extraordinaire. On la connaît quand même par ailleurs. Elle a été filmée. Il y a quand même un certain nombre de films sur la conquête spatiale pour savoir quand même un certain nombre de choses sur le bricolage, etc., etc. C'est marrant parce que vous n'avez pas parlé de ce qui semble être l'argument de vente du film. C'est vrai qu'on valorise l'épouse de Neil Armstrong. La pauvre Claire Foy, elle est pour rien, mais franchement, le personnage reste totalement superficiel.
C'est un cliché absolu. Non, mais c'est la femme du héros qui gémit et qui dit oh, quand même, tu pourrais remettre les pieds sur terre un peu.
Oui, l'époque voulait. À un moment, il y a deux choses.
Du film,
il y a le cliché, puis à l'époque, il voulait qu'elle soit en train de l'attendre tous les jours.
J'entends bien. Mais qu'est-ce qu'il en fait, lui, dans le film ?
Écoutez, moi, j'ai vu le côté, même quand on voit des manifestants dire c'est l'homme blanc qui monte. Voilà, on sent qu'il coche toutes les cases de bon, on va pas non plus trop en faire sur l'aspect patriotique, on va mettre en valeur le personnage féminin. Je trouve que c'est assez bien amené et le fait qu'il n'y ait pas d'orgasme patriotique dans le film, je trouve ça très malin. C'est-à-dire que c'est vraiment.
On est au 21e siècle.
Il réécrive l'histoire, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de drapeau planté sur la Lune, c'est-à-dire que c'est totalement délirant de faire ça. C'est-à-dire que
mais c'est le correct d'aujourd'hui, ça.
C'est du révisionnisme total.
Mais
parce
non,
qu'on
c'est
comprend,
l'autorisme
en fait,
actuel.
On est dans un espace mental. Peut-être qu'en fait, voilà, Armstrong s'en fichait de planter le drapeau américain et qu'il pensait qu'à sa fille, qu'il avait envie de se tuer. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans une sorte de vérité historique patriotique. Et c'est ça que je trouve assez fascinant, c'est qu'à l'intérieur de ce biopic extrêmement formaté, produit par Spielberg, attendu par tout le monde,
ah, votre Eastwood, idole, c'est ça, voilà. C'est pour ça que vous l'aimez.
Et qui a failli être réalisé par Eastwood, on a quelque chose.
Ça aurait été terrible.
Là, on aurait vu le drapeau, là, quand même.
Bah, et là, il n'y est pas.
On aurait vu que le drapeau.
C'est quand même hallucinant. Et encore une fois, moi, je vois une sorte de crise d'angoisse de 2h20. Et je trouve ça assez fascinant. Et il y a un jeu entre voilà, le biopic formaté et... Il y a quelque chose qui marche, quoi.
Voilà. Ah, vous aimez ce soir. Hein.
Bah, je pensais films. Pas aimer. Hein. Il y a deux cinéastes que je déteste quand même dans cette dispute et qui m'ont plu.
Quelle chance. Alors c'est votre traitement, je ne sais pas. First Man de Damien Chazelle est sorti sur les écrans depuis mercredi. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, c'est pas Lucille Gaumont, non, c'est celle qui est assise juste à côté d'elle, c'est Sarah Dion qui nous rappelle d'abord la question du jeu d'hier au soir et nous donne sa réponse, Sarah.
La question était en quelle année s'est achevé le procès Rivonia, donc le procès de Nelson Mandela.
Et les autres.
Et les autres.
L'année.
En 1964.
Ce soir, des invitations pour une exposition à la Monnaie de Paris, à voir jusqu'au 3 février l'exposition de Grayson Perry qui s'intitule Vanité, Identité, Sexualité. Quelle est la question ?
Qui a fondé la Monnaie de Paris ?
Si vous avez la bonne réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales. Tout cela à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter cette émission et bien sûr vous abonner à son podcast. On se retrouve lundi à 19h pour une dispute consacrée au spectacle vivant. Plus précisément au One Man et One Woman Show, où on retrouvera encore Lily Bloom, Lucille Gaumont, qui daignera sans doute parler lundi soir, et puis Philippe Chevillier, notre affiche Marine Mausson pour la lesbienne invisible, c'est à la nouvelle scène, Fabrice Had, 14 juillet, c'est au rond-point, Anna Gatsby, Nanette, c'est sur Netflix, et puis un coup de cœur de Lucille Gaumont pour Je parle toute seule de Blanche Gardin.